Bonjour, nous sommes sur Radio Flandre, la radio du Collège Flandre. Je suis avec Eunice et moi Julien, et nous allons parler avec Frédéric, qui nous a présenté sur les expositions des Roms.
Dans quoi travaillez-vous, monsieur ?
Bonjour, en fait, moi je suis enseignant dans un centre scolaire qui est dans une prison à la maison d'arrêt de Sequedin. Et à côté de ça, je suis bénévole dans une association qui aide les habitants des bidonvilles et des squats. Donc en général, des personnes roms.
Et est-ce que vous savez où est-ce qu'ils se positionnent les roms quand ils quittent la Roumanie ?
Alors, en fait, il y a des roms qui bougent en venant de Roumanie ou de Bulgarie, mais aussi de l'ex-Yougoslavie, des pays comme la Bosnie, la Croatie, la Serbie. C'est des gens qui fuient les difficultés économiques qu'il y a dans leur pays, voire éventuellement aussi des agressions, des violences, des discriminations, et viennent dans les pays d'Europe de l'Ouest, comme l'Italie, la France, l'Allemagne, entre autres, pour chercher des meilleures conditions de vie pour eux-mêmes, pour leurs enfants, éventuellement chercher du travail, scolariser les enfants. Alors, le problème, c'est que ces gens arrivent, ils n'ont pas du tout d'argent, ils n'ont pas de revenus, donc ils vont essayer de trouver des terrains un peu abandonnés à l'intérieur des villes, pour être pas loin de, comment dire, des lieux pour trouver éventuellement du travail, ou bien des ressources, comme des associations qui vont pouvoir les aider, etc. Donc forcément, ils ne vont pas en dehors des villes, ils ne vont pas à la campagne, ils vont dans les villes, là où en général personne habite. Donc c'est pour ça qu'on va les trouver sur des terrains abandonnés, des terrains vagues, en dessous des ponts.
Combien sont-ils environ à partir ?
Alors, combien de personnes partent, ça ne va pas dire. En fait, ce qu'il y a, c'est que, si on veut un peu parler de chiffres, dans l'Union Européenne, il y a 6 millions de Roms, d'accord ? Au niveau géographique, si on prend toute l'Europe, là, il y a 10 millions de Roms, mais parmi ces personnes, il y a des personnes dans leur pays qui vont pouvoir rester parce qu'elles ont du travail, ou elles ont une certaine qualité de vie. C'est seulement une toute petite minorité des Roms qui vont fuir la Roumanie, la Bulgarie, ou les pays dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ces gens-là sont les plus pauvres, et elles sont exclues dans leur pays d'origine, d'accord. Alors après, ça dépend un petit peu des conditions d'accueil des pays. En France, c'est pas nombreux. Depuis les années 1990, on compte entre 16 000 et 20 000 Roms qui viennent donc des pays cités tout à l'heure pour essayer de trouver une meilleure qualité de vie. Donc 16 à 20 000 personnes, c'est très peu. C'est un chiffre à peu près constant pour la France.
Et comment on fait pour aider les Roms à venir au collège puisqu'ils n'ont pas d'argent quand ils viennent en France ?
Alors, en France, c'est quand même un pays qui a quand même des avantages. En termes de respect des droits humains, c'est qu'un enfant, il a le droit d'être scolarisé quel que soit son pays d'origine, quelle que soit la situation familiale de ses parents. Donc même si c'est des personnes qui sont en situation régulière, qui n'ont pas de domicile, etc., qui n'ont pas de revenus, ils seront scolarisés en France. Alors, sur tout le territoire national, des fois, il y a des mairies, c'est un petit peu compliqué pour inscrire, mais globalement, la loi protège les enfants, et on arrive toujours finalement à inscrire les enfants, que ce soit en école primaire ou en collège, voire en lycée, pour les plus âgés, une fois qu'ils commencent à bien parler français, qu'ils peuvent continuer les études. En plus, en France, il y a des structures spécifiques, que ce soit en école primaire ou en collège, c'est les classes du PE2A, c'est pour les élèves allophones arrivant, donc des enfants qui ne parlent pas en français, et qui vont être intégrés progressivement dans les classes ordinaires, d'accord, soit de l'école primaire, soit du collège. Le but, c'est qu'après, ils fassent une scolarité classique avec tous les autres enfants. Donc les intégrer en leur apprenant la langue, et puis voilà, en s'habituant à vivre avec les autres enfants.
Est-ce que les Roms viennent forcément de Roumanie ?
Non, bah non, en fait, c'est... Alors, en Europe, c'est en Roumanie et en Bulgarie qu'il y a le plus de Roms, mais il y en a dans d'autres pays. Je vous disais tout à l'heure, l'ex-Yougoslavie, les petits pays, en Croatie, Serbie, Bosnie, Monténégro, etc. Et après, il y a des Roms partout en Europe. Par exemple, on peut parler en Ukraine, il y en a en Angleterre, il y en a en Espagne. Alors, ce qu'il faut voir sur les Roms aussi, il y a un petit problème de langage, c'est qu'il y a le nom générique, les Roms, donc on compte tous les Roms d'Europe. En fait, nous, quand on parle, l'opinion publique, quand on parle des Roms, souvent on parle des Roms pauvres qui viennent justement de ces pays-là. Roumanie, Bulgarie, mais on pense qu'aux Roms pauvres. Alors qu'en fait, il y a toutes sortes de Roms. Et par exemple, en France, il y a aussi des gens, les Manouches, qui sont une population qui a la même origine que les autres Roms. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, les Manouches en France, ils sont à peu près 300-400 000 personnes. Mais quand nous, dans le langage courant, on parle des Roms, en général, on ne pense pas à eux. On pense aux Roms pauvres qui vivent dans les bidonvilles et dans les squats.
Et est-ce que vous savez, à part la France, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils vont parfois, au lieu de venir en France?
Alors, on voit un peu avec les Roms qu'on connaît là, donc sur les bidonvilles de l'agglomération lilloise, quand on parle avec eux, on voit un petit peu leur parcours. C'est souvent des gens qui sont passés par l'Allemagne, qui sont passés par l'Italie. Alors après, il y a des filières directes. Quand par exemple, il y a une famille qui s'est installée, qui a à peu près un terrain à peu près correct, donc ça se passe bien pour les enfants, ils sont scolarisés, il y a des bénévoles qui viennent les aider pour plein de choses. Là, éventuellement, s'ils ont de la famille, ils vont leur demander ils vont leur conseiller de revenir plutôt là où ils habitent. Et donc comme ça, il y a des gens qui viennent. Et il se trouve surtout que chez les Roms, c'est un de leurs traits culturels, ils sont très attachés à la famille. Donc il y a des solidarités, tout ça. Donc les gens, ils aiment bien vivre entre eux, en famille, avec leurs cousins, les parents, les grands-parents. Donc, s'ils peuvent trouver un endroit où ils peuvent se regrouper, ils sont heureux de le faire. Et donc, voilà.
Est-ce un avantage ou un désavantage pour nous?
Deux.
Qu'ils soient là, est-ce que ça peut nous rapporter des problèmes ou plutôt des avantages, donc qui en fait, comment dire, ils nous apportent leur culture.
Ouais, je pense que le fait de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Puis ça nous questionne sur nos modes de vie, sur nos solidarités, comment on peut réagir par rapport à des gens qui sont en difficulté, tout ça. Et alors après, il faut voir déjà que les Roms, donc tout à l'heure, je voulais vous en parler, c'est que bon, ils ont une origine indienne, donc ils viennent d'Inde à peu près à partir du 10e siècle. Alors, bon, voilà, il y a différentes versions sur le pourquoi des choses. En gros, il faut voir que il y a des Roms donc, qui arrivent d'Inde à partir du 10e siècle jusqu'au 15e. Au 15e, là, on commence à avoir des textes et on voit vraiment des Roms un peu partout en Europe, alors avec des noms différents. À l'époque, on ne dit pas forcément les Roms, mais on va peut-être dire les Tziganes, les Gitans, ça dépend un petit peu des endroits. Ces gens-là, ils arrivent avec un mode de vie qui est différent d'une autre et tout, et ça interpelle les gens en leur disant, voilà, est-ce que notre mode de vie, c'est forcément celui qu'on doit imposer aux autres, ou il faut accepter que les gens, ils ont d'autres modes de vie? Par contre, si on parle au niveau culturel, vous avez tout un rapport à la terre, à la propriété chez les Roms qui est différent de nous dans nos sociétés. C'est-à-dire que les gens, par exemple, pour eux, la terre, elle appartient à tout le monde. Donc, chez les Roms, il n'y a pas de volonté d'être, comment dire, propriétaire d'un terrain ou d'une habitation. C'est pas dans leur culture. D'accord ? Par rapport à, vous savez, là, il y a tous des problèmes d'écologie actuellement. Et chez les Roms, justement, la culture aussi, par rapport au travail, c'est de dire, on va travailler pour ce dont on a besoin. Pas pour accumuler des richesses, être toujours plus riche. Et donc là, vous savez qu'actuellement, il y a des gros problèmes écologiques, on se demande est-ce qu'on va toujours produire plus, et il y en a qui disent qu'il faut toujours la croissance et tout. Et les Roms, en quelque sorte, ils interrogent en disant, est-ce qu'on ne peut pas vivre en étant un petit peu moins avide d'avoir, de possession, etc. Il y a tout ce rapport-là qu'on peut avoir en échangeant avec eux et en les rencontrant. Et après, ce que je vous dis, je voulais finir là-dessus, en vous parlant tout à l'heure de... Les Roms, donc, c'est des Européens. Parce que des fois, si les gens, ils ont l'air d'impression, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et tout, mais ce que je vous disais, dès le 15e siècle, il y a des Roms partout en Europe. Et les gens qu'on rencontre là, qui viennent de Roumanie et tout, ça fait depuis des générations, donc ça fait plus de 500 ans qu'ils sont en Europe. C'est des Européens à part entière. Et donc ça, il faut pas trop l'oublier non plus, quoi. Dans un monde où on parle d'Union Européenne, il faut protéger forcément les minorités européennes, même ceux qui n'ont pas d'État, de territoire.
Et comme aide, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des bénévoles,
ouais,
qui aidaient les Roms à vivre quand même bien, pour éviter d'être... Mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils mettent en place pour mieux vivre?
Alors, en fait, quand il y a un bidonville qui se crée, en fait, globalement, il y a tout de suite des gens, les solidarités qui vont se créer à peu près, les gens des quartiers ou des gens qui déjà des Roms ailleurs et qui vont venir. Donc il y a plein de choses à faire. Ils vont essayer de régulariser leur situation, donc éventuellement c'est de faire des démarches administratives auprès des préfectures. Notamment c'est pour les gens qui sont pas justement Roms ou qui sont pas de Roumanie ou de Bulgarie, les gens qui viennent de l'ancienne Yougoslavie, parce qu'eux ils sont pas dans l'Union Européenne. En général, ils n'ont pas les papiers, donc il faut demander des cartes de séjour, des droits de rester en France. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc les bénévoles qui maîtrisent bien la langue, qui connaissent un petit peu les rouages administratifs, ils vont aider là-dessus. Après, il y a des bénévoles qui vont s'occuper plutôt de tout ce qui est inscription des enfants dans les écoles, parce que pour les gens, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'il faut faire. Donc il y a des bénévoles qui vont contacter les établissements scolaires, éventuellement, il y a un organisme qui s'appelle le CASNAV au centre de l'éducation nationale qui s'occupe des enfants migrants qui ne connaissent pas la langue. Enfin bon, on va faire les démarches avec eux. Après, c'est toutes les démarches aussi, ce qui peut être médical. Il faut aider les gens à créer. Enfin, quand on est étranger, au bout de 3 mois, on a certains droits pour se faire soigner pour les maladies graves. Parce que la France est un pays comme ça, généreux, qui soucie la santé des gens, on est ou non des papiers. Donc il y a des bénévoles qui vont s'occuper de ces démarches-là. Il y a aussi, on va contacter d'autres associations, parce que si les gens ils n'arrivent pas à trouver de travail, forcément il y a des problèmes de nourriture, il y a des problèmes de logement. Donc on va essayer de contacter d'autres associations, comme les Restos du Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire, etc. pour aider les gens à faire des démarches, pour qu'ils aient un minimum pour vivre décemment. Après, les associations... quand à peu près, on va dire, ce qui est vital, ce qui est vraiment très important pour les gens, à peu près organisé, on va essayer de faire d'autres choses. Pour les enfants, on va essayer de, si possible, de les intégrer dans des activités sportives ou éventuellement de faire des petites sorties pour que les gens ne restent pas toujours sur leur bidonville où il y a quand même des grosses difficultés de vie. Hein, souvent, il y a des problèmes. Donc voilà, il faut sortir un peu les jeunes, on va faire des sorties, on va faire des animations. Pour les ouvrir et puis pour permettre justement la rencontre avec d'autres personnes.
Est-ce que avec les parents c'est la même chose que les enfants? Est-ce qu'il y a une qui peut donner du boulot à des parents par exemple?
Alors en fait c'est des fois c'est la barrière de la langue qui va créer des problèmes. Bon, en plus vous savez que dans notre société actuellement il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de chômage. Donc forcément si c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de compétences vraiment avérées au niveau professionnel, ça va être très dur de trouver. En revanche, il y a des possibilités. Il y a des gens qui trouvent du travail. Alors c'est des fois par le biais des mairies, il y a des gens qui vont trouver du travail, tout ce qui est. Alors en général, c'est les métiers pas très bien rémunérés et puis que d'autres vont pas voir faire. Mais bon, les Roms, ils ne demandent qu'à travailler, donc quand ils peuvent trouver un travail, ils sont toujours contents. Donc par exemple, ça va être l'entretien des rues, il y en a qui trouvent dans tout ce qui est dans le travail dans les déchetteries. Après, il y a des gens qui essaient de trouver du travail dans le bâtiment aussi. Donc, nous, on essaye de trouver, alors on a des liens avec Pôle emploi, avec des organismes de formation et tout ça. On essaye de trouver et il y a des choses qui sont... Les Roms, en fait, des fois, peut-être que vous m'auriez posé la question, on voit des fois des Roms qui mendient, mais c'est pas ce qu'ils aiment faire, forcément. C'est par nécessité que les gens mendient. Et quand vous voyez, par exemple, la personne, elle peut passer une journée à mendier, ou il y en a qui vont, par exemple, faire de la récupération de ferraille, ils vont travailler toute une journée entière pour gagner quelques euros. C'est des gens qui sont courageux, ils demandent à travailler, mais je vous dis, ce qui est difficile, c'est de trouver un emploi. Donc en fait, le gros pari pour les familles et puis pour les bénévoles qui les aident, c'est l'intégration par les enfants. Donc les enfants qui vont à l'école, qui vont après apprendre éventuellement au lycée professionnel ou par d'autres études, réussir à trouver un travail et des compétences et s'intégrer dans la société. Alors en fait, des fois les gens pensent que les Roms sont des nomades et qu'en fait ils ne veulent pas se fixer, ils veulent bouger, etc. Il faut savoir que sur les Roms, donc on a dit à peu près 10 millions de Roms sur l'Europe géographique, il n'y a que 2% des Roms qui sont des nomades. D'accord ? À l'origine, les gens, du fait de leur métier, ils étaient nomades, d'accord, au Moyen-Âge, etc. Mais là, globalement, les gens, ils veulent se sédentariser.
Combien sont-ils environ par bidonville ?
Alors là, bah, ça dépend franchement. Bon, moi j'interviens sur un bidonville à Haubourdin. Là, c'est 25 personnes, donc c'est 5 frères et sœurs, dont certains ont des enfants, et en tout ça fait voilà, 25 personnes. C'est un petit bidonville. Avant, il y avait un grand bidonville sur l'île, où donc on intervenait nous avec l'association UMPN et puis d'autres associations. C'était devant l'ancienne prison de Losse. Et là, ça a pu s'augmenter jusqu'à 200, 250 personnes. En général, c'était 150. Et le terrain, quand il a été fermé, il y avait 100 personnes. Donc là, c'était plus important. En fait, là, c'était un terrain légal à Losse, sur un parking, où ils avaient regroupé, où les pouvoirs publics avaient regroupé trois sites géographiques qui étaient sauvages, on va dire, et qui étaient dans la boue, qui étaient vraiment en difficulté. Et vu qu'il y avait des projets de travaux, là, il y avait un terrain légal qui avait été créé. Là, des fois, les pouvoirs publics ouvrent des terrains qu'on appelle village d'insertion, par exemple, où là, c'est un terrain autorisé avec des travailleurs sociaux qui ont aidé les familles à s'intégrer, à chercher de l'emploi, à faire des formations. Mais ça reste encore très rare sur la métropole, et même en France. Alors qu'il faut savoir quand même que l'Union européenne a des fonds, des finances très importantes pour aider les familles roms à s'intégrer, quel que soit le pays d'Europe. D'accord. Le problème, c'est que souvent, les pouvoirs publics enfin les collectivités territoriales, les communes, ça, sont un petit peu frileux pour voilà, accueillir des Roms dans la ville. Une famille, deux familles, quelques personnes, c'est faisable. Dès que c'est un petit peu plus de monde, voilà, les municipalités ils ont un peu peur, donc ils ne sollicitent pas cet argent qui pourrait permettre de payer des logements, etc. Mais donc voilà, on a des grands terrains, on a des petits terrains. À mon avis, on pourrait intégrer assez vite les gens. Sur la métropole lilloise, il reste 1000 personnes à peu près. Un temps, il y avait 2500 personnes, et là, il reste plus que 1000 personnes.
Du coup, on a évolué ou on a diminué de migrants romains en France?
Une évolution au niveau du nombre ou de l'accueil, tu
Ouais, de l'accueil.
au niveau de l'accueil, bah, c'est un peu étrange parce qu'en fait, on dirait qu'il y a une politique qui va un petit peu dans les deux sens. Tu vois, il y a des côtés, il y a des belles réalisations, il y a des projets d'intégration. Ben, je vous disais, pour l'école, franchement, l'éducation nationale, elle fait tout pour intégrer les enfants. Donc là, ça se passe bien. En revanche, c'est plus au niveau du logement et tout ça, parce qu'en fait, par exemple, sur un bidonville, ce qu'il faut savoir, voilà, un bidonville s'installe. Donc, je vous dis, il y a tout un réseau d'aide qui va se créer, il y a les enfants qui vont à l'école, il y a des parents qui vont peut-être trouver, ou des jeunes adultes qui vont trouver des formations, éventuellement qui vont trouver un emploi. Alors, c'est des petits emplois, mais voilà, un CDD, un contrat à durée déterminée, petite durée, mais bon, il y arrive. Et en fait, tout d'un coup, il va y avoir une expulsion. Donc, en fait, les gens, ils vont devoir quitter l'endroit où ils étaient, ils vont être dispatchés sur d'autres endroits, ils vont partir, et là, tout repart à zéro. Parce que du coup, ben, les enfants qui étaient scolarisés, s'ils se trouvent, c'est trop éloigné de l'école primaire ou du collège où ils étaient. Donc, ils vont plus pouvoir y aller. Donc, il va falloir recommencer des nouvelles inscriptions dans le collège voisin ou l'école primaire. Est-ce qu'il y a de la place? Pas sûr. On perd du temps. Après, tout ce qui était ben, le suivi médical, éventuellement les interventions des bénévoles. Il y a des bénévoles qui viennent pour faire apprendre le français aux parents, etc. Si le terrain est détruit, les gens ils partent ailleurs, il faut tout reconstruire. Même au niveau de l'organisation. Par exemple, souvent les gens ils ont des cabanes qu'ils ont construites eux-mêmes ou des vieilles caravanes qu'on a récupérées voilà, par des dons, des bénévoles. Si tout ça c'est détruit, il faut tout recommencer à zéro. Vous voyez, tout est remis en cause à chaque fois et on perd du temps.
Reste-t-il longtemps au même bidonville?
Alors, ben, c'est toujours pareil. Si c'est un village d'insertion qui est pris en charge par les pouvoirs publics, là le terrain il peut durer un bon moment. En revanche, si c'est un terrain illégal, ça dépend un peu de la volonté des pouvoirs publics. Alors, il y a toujours ce qu'on appelle la trêve hivernale. Ça vaut aussi pour d'autres personnes, par exemple, qui sont en logement, qui ne peuvent plus payer leur location. Voilà, il faut des gens qui sont dans des squats. Pour la trêve hivernale, c'est donc, quasi tout l'hiver jusque fin mars, il peut plus avoir d'expulsion. Donc là, il y a une petite période où les gens ils sont tranquilles. D'accord? Mais en revanche, là, ça vient de commencer à partir du 1er avril. Si les pouvoirs publics décident de fermer un terrain, alors, il faut une décision de justice, tout ça ne peut pas se faire, mais des fois, ça se passe un peu quand même, sans toujours bien respecter le cadre légal. Les gens, ils peuvent être expulsés. Donc, des fois, il y a des périodes. Donc là, pour l'exposition, je ne sais pas si vous avez vu en bibliothèque, on avait ramené le parcours d'un migrant sur 2-3 ans, enfin d'une famille de migrants. Et vous voyez que les gens, ils font 2 mois ici, 3 mois là, quelques semaines, quelques jours, et ça rebouge. Parce que, voilà, il y a des expulsions, il y a des pressions. Et donc, c'est compliqué. globalement, les terrains, ils durent pas très longtemps. L'an passé, sur 16 000, enfin, les chiffres, c'est pas exactement ça, mais ça vous donne une idée. À peu près sur 16 000 à 20 000 Roms qu'il y a en France, il y a à peu près tous les ans 70% des gens qui vivent au moins une expulsion dans l'année. Vous voyez, ça fait au moins 11 000, 12 000 personnes qui sont expulsées sur les 16 à 20 000. Vous voyez, c'est compliqué. Et puis surtout de vivre dans cette menace. Parce que pareil, on commence à investir en sachant que peut-être la semaine prochaine, on va être expulsé et tout ça. C'est dur, il y a toujours cette tension. Après, on pourrait peut-être parler aussi, c'est de... comment dire, des difficultés matérielles des gens. Vous voyez, parce que d'un terrain à l'autre, parce que des fois, bon, les gens, voilà, on voit les Roms, on les voit un petit peu loin et tout ça. Ce qu'il faut penser, c'est les conditions de vie. Des fois, il y a des terrains où il n'y a pas d'eau, d'accord ? Ou alors, il faut aller chercher l'eau assez loin avec des jerrycans et tout. Il n'y a pas de sanitaire, donc ça, on va faire ça. Ça va être donc des toilettes sèches qu'il faut aménager par soi-même. Après, il y avait toutes les conditions de vie, par exemple, d'un bidonville. Donc, des fois, vous pouvez regarder sur Internet. Des fois, on peut se trouver des petits reportages intéressants. Dans une petite pièce, comme une petite salle, des fois vous avez 5-6 personnes qui peuvent vivre. Vous voyez, il faut comprendre un petit peu toutes les conditions de vie. Par exemple, pour les enfants, vu que là, par exemple, on est au collège, je sais qu'il y a des enfants des bidonvilles qui viennent au collège. Des fois, on peut se questionner, voilà, ils n'ont pas l'air peut-être bien réveillés ou pas très, très comment dire, impliqués dans leur travail. Il faut voir que ces gens-là, des fois, la nuit, ils ne dorment pas parce que il fait trop froid, parce que dans une pièce à 5-6 personnes, il y en a un qui est malade, un petit enfant qui est malade. Vous voyez, ils n'ont pas toujours à manger au bon moment. Donc, il faut mettre un peu de compréhension sur leurs conditions de vie et de scolarité.
Frédéric, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci aussi à vous de m'avoir accueilli et d'avoir fait cette exposition. Merci aux professeurs qui ont eu cette bonne idée. Puis j'espère que ben voilà, ça permettra un petit peu plus d'échanges avec les gens qui viennent d'ailleurs et qu'on regarde toujours un petit peu d'une façon un peu lointaine alors que c'est des enfants comme des autres qui demandent qu'à vivre une vie heureuse. Voilà.